On vous a mis « La révolution est en marche ». Alors la révolution, c'est peut-être un terme un peu fort. Pourtant, tout le monde s'accorde à dire que, au même titre que l'imprimerie, au même titre que l'écriture ou l'apparition de l'informatique et de l'Internet, cette révolution va jouer sur pas mal de domaines dans l'entreprise. Alors dans l'Internet, effectivement, on est passé par différentes phases. On a eu une première phase où en fait on avait accès à l'information, c'est ce qu'on a appelé le web 1.0. Ensuite, vous avez le web 2.0 qui est apparu avec l'échange d'informations à travers les réseaux sociaux notamment. Et aujourd'hui, on parle plutôt de web 3.0 où on a en fait des objets connectés qui vont discuter entre eux. Donc c'est plutôt de cette partie-là qu'on va traiter autour de cette table ronde. Alors quand on est une entreprise, on a plusieurs façons d'aborder cette révolution. Soit par le biais des obligations réglementaires. Donc on m'oblige à faire telle ou telle chose. Donc ben, évidemment, je vais être obligé de faire ça. Ou alors, l'autre approche, c'est plutôt de se dire, ça peut être une opportunité pour moi. Et donc, je vais mettre en place tout un tas de choses me permettant de gagner en productivité notamment. Et donc, à travers les différentes diapositives qu'on va vous montrer maintenant, donc je vais laisser la parole à Amaury. On a souhaité que cette présentation soit plutôt quelque chose de très concret avec des exemples précis.
Oui, donc on vous a fait trois diapos qui présentent donc différents domaines. Donc là, le premier, c'est le process de production et l'organisation du travail. Et donc on a essayé de faire un peu le parallèle dans nos deux secteurs d'activité du numérique. Donc je te laisse peut-être parler juste quand même du Fab Lab et
ouais. Puis je prendrai la suite. Alors. Donc sur cette partie-là, c'est vrai que dans les entreprises, et notamment artisanales en ce qui me concerne, on a quelque chose qui de plus en plus révolutionne notre façon de produire. Alors on a parlé de machines à commande numérique, notamment dans tout un tas d'entreprises de menuiserie, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ce type de matériel. On a aussi l'apparition des imprimantes 3D. Alors les imprimantes 3D dans tous les domaines. Des prothésistes dentaires qui les utilisent pour faire des prototypes quand ils ont des couronnes à fabriquer. On a aussi des imprimantes dans le domaine de l'alimentation, puisqu'on a des imprimantes alimentaires maintenant qui apparaissent sur le marché. On a des imprimantes qui peuvent utiliser différents matériaux, et notamment du métal aujourd'hui. Donc voilà, c'est des choses qui aujourd'hui révolutionnent complètement les domaines de production. Et le Fab Lab, évidemment, c'est le laboratoire de fabrication, donc la possibilité pour les entreprises de pouvoir se rencontrer, d'échanger, d'utiliser du matériel de pointe concernant toutes ces nouvelles technologies.
Alors, côté agricole, on a ce qu'on appelle des living labs, donc des laboratoires du vivant. Donc, il y a un projet actuellement en Lozère avec la chambre de l'Aveyron et du Lot pour valoriser toute la technologie des boucles au RFID pour localiser, enfin pas pour localiser les animaux, mais là justement l'objectif ça sera de localiser les animaux. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Il y a l'agriculture de précision. Donc il y a de gros développements dans ce domaine-là. Donc l'agriculture de précision, c'est limiter les apports d'intrants, c'est ajuster au mieux la fertilisation donc, et l'irrigation. Et donc pour ça, on s'appuie sur des traitements de données d'images satellitaires, l'utilisation des drones, ça se développe de plus en plus. Il y a des pilotes de drones dans certaines chambres d'agriculture, plutôt celles qui sont en grande culture généralement. On voit apparaître aussi l'autoguidage des tracteurs, notamment en Lozère, c'est utilisé pour l'épandage des bouts de stations d'épuration de la ville de Mende. Sachant qu'aujourd'hui, on arrive même à avoir une précision à 2 cm près d'une année sur l'autre. Donc on est vraiment avec des outils qui sont très modernes et très précis. Et puis, ces tracteurs, ils permettent aussi, par les interconnexions avec le matériel qui est attelé, de pouvoir réaliser des dosages qui sont géolocalisés. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir une carte de la parcelle avec quels sont ses besoins au niveau d'éléments nutritifs et la dose va être adaptée en fonction de l'endroit où passe le tracteur. Sur la conduite du troupeau, donc là, ça existe déjà depuis de nombreuses années. Les agriculteurs ont souvent des troupeaux qui peuvent être importants, notamment en ovins. Et donc, quand on a 40 vaches, c'est facile presque de les reconnaître, on va dire. Mais quand il y en a 400, en parlant de brebis, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a beaucoup de logiciels de conduite de troupeaux qui ont été développés par des boîtes privées ou par le secteur public, notamment Cinel, qui est un outil des Arsoé dans lequel participent les chambres. Et donc ces logiciels ont été développés, mais par rapport aussi avec les boucles, pour qu'on puisse suivre l'animal de sa naissance à sa mort avec tous les événements de sa vie, que ce soit la reproduction, les traitements médicamenteux ou son alimentation et ses performances. Se sont développés depuis une dizaine d'années les robots de traite. Donc sur le département, il y en a à peu près une quinzaine aujourd'hui. Alors c'est des investissements qui sont assez coûteux et qui révolutionnent même le fonctionnement de l'exploitation, puisque les vaches vont aller d'elles-mêmes dans le robot pour se faire traire. Mais donc ça veut dire qu'il faut que le robot soit toujours à proximité d'elles. Donc, et du coup, beaucoup d'éleveurs se sont un petit peu trompés en croyant. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de faciliter le travail. Mais le robot, il communique avec eux. Et donc, chaque fois qu'il y a un tuyau qui se débranche ou tout ça, eh bien, il appelle au secours. Et donc, c'est quand même gourmand en temps. Mais il y a certains agriculteurs qui en sont très satisfaits. Aujourd'hui, on voit apparaître aussi des robots pailleurs, des robots d'alimentation. On a des systèmes, notamment en bovin, pour la détection des chaleurs, pour optimiser la reproduction et être sûr que de mettre le taureau au bon moment. Et puis, de la même manière, au moment du vêlage, donc de la naissance des veaux, mais c'est toujours une période à risque où on peut perdre à la fois la vache et à la fois le veau. Et donc, il y a des systèmes comme SmartVel qui vont permettre d'envoyer un SMS à l'agriculteur pour lui dire « Attention, le travail va bientôt attaquer, et il faut que tu te rendes dans les tables ».
Alors, on a parlé de réglementaire tout à l'heure. Effectivement, il y a un certain nombre de normes qui arrivent sur le marché. Dans le domaine du bâtiment, notamment, le BIM, Building Information Model, en fait, c'est une autre description de ce que pourrait être le plan. Donc, on a un plan qui définit comment est-ce qu'on va bâtir ce bâtiment, où est-ce que vont être les cloisons. Cette norme, qui sera une norme utilisée par tous, permet de décrire des objets qui constituent ces bâtiments, et donc de pouvoir tous discuter de la même chose. S'il y a une modification à faire, s'il y a une porte à changer, ben on va savoir en fait quel est le type de porte, quelle est sa référence, etc. Donc aujourd'hui, on impose de plus en plus cette norme-là pour que tout le monde puisse se comprendre. En termes aussi de réponse au marché public, j'ai vu des élus dans la salle, de plus en plus, on oblige en fait les entreprises à pouvoir répondre de façon dématérialisée. Et donc, pour pouvoir répondre de façon dématérialisée, il faut être équipé d'un certificat électronique. En introduction, j'ai oublié de vous dire, je voulais le préciser, qu'il y avait environ une entreprise sur deux qui n'utilisait pas toutes les potentialités du numérique. Effectivement, il y a encore du travail à faire, et notamment dans ce domaine-là, donc accompagner les entreprises à se fournir d'un certificat électronique pour pouvoir répondre au marché public. On en a tous les jours qui nous appellent en nous disant « Voilà, je savais pas que ça se passait comme ça, mais on m'oblige à avoir un certificat électronique pour répondre à ce marché. » Donc, on est là aussi pour les accompagner. De la même façon, notre exemple dans le domaine de l'automobile, le SIV, le système d'immatriculation des véhicules. Les garages automobiles ont conventionné aujourd'hui avec les préfectures, ce qui leur permet de façon automatique de pouvoir immatriculer des véhicules qu'ils vendent. Donc ça, ça a 2 ans. Et donc là, de la même façon, il faut qu'ils soient équipés d'un certificat électronique. Et la facturation électronique, ça, ce sont aussi des obligations. Alors d'organisme public à organisme public, c'est déjà le cas. Mais il faut savoir que pour toutes les entreprises, même pour les micro-entreprises, à partir du 1er janvier 2020, il y aura obligation de pouvoir traiter les factures électroniques et donc d'utiliser les plateformes qui ont été conçues à cet effet.
Côté agricole, on a également des normalisations qui se mettent en place, notamment avec la norme ISOBUS. Donc le principe, c'est qu'on a de plus en plus de matériel connecté. Donc l'agriculteur a un certain nombre d'informations. Les matériels attelés, que ce soit un semoir, un épandeur, vont avoir leur propre mode de fonctionnement. Et donc plutôt que de multiplier les écrans dans le tracteur pour chaque type d'appareil, aujourd'hui, la norme ISOBUS a pour volonté d'avoir un seul écran. Et en fonction du matériel, ça va paramétrer l'écran pour avoir les informations qui sont liées à cet outil-là. Et sachant que cette norme permet également des échanges d'informations donc entre le tracteur et le matériel attelé, mais également avec des logiciels de gestion. Et donc l'agriculteur, il n'a plus rien à renseigner. Tout se renseigne automatiquement dans son logiciel. Les boucles électroniques, je l'ai un tout petit peu ébauché tout à l'heure, c'est une obligation depuis 2010 pour les ovins. C'est facultatif pour les bovins encore aujourd'hui. Et donc ça a demandé de passer à cette technologie-là, ça a eu un surcoût. Et aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de matériel de lecture, donc des cannes de lecture pour les agriculteurs, des portails qui vont même permettre de temps en temps de trier les animaux. L'animal passe dans le portail, il va y avoir 2 portes. Et en fonction de son identité, une porte va s'ouvrir ou une autre. Donc en ovin, c'est très intéressant puisqu'on a souvent plusieurs lots d'animaux.
Alors, d'autres exemples dans le domaine du suivi administratif ou de la traçabilité. Aujourd'hui, je suis coiffeur, je suis esthéticienne. Plutôt que de m'arrêter de travailler quand un client rentre ou quand un client m'appelle à mon salon, j'ai la possibilité aussi d'utiliser des outils de prise de rendez-vous en ligne. Là aussi, ce qui a révolutionné la façon de travailler. Donc, c'est des exemples très basiques, on va dire, mais qui parlent aujourd'hui à toutes les entreprises artisanales. Et tout ce qui est application en ligne, donc aujourd'hui, on utilise de plus en plus ce qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir accéder à des applicatifs qui ne sont pas installés directement dans les entreprises, mais qui sont hébergés dans certaines structures, ce qui permet notamment de faciliter tout ce qui est travail de sauvegarde, tout ce qui est travail de sécurité. Et donc, voilà.
Et sur la traçabilité également, donc en agriculture, la gestion des surfaces est très importante, même en élevage. Donc on a plusieurs outils, dont MesParcel, qui est un outil donc, qui a été développé par le réseau des chambres d'agriculture. Aujourd'hui, il y a 35 000 utilisateurs au niveau national. Donc ça permet de gérer l'assolement d'une année sur l'autre. Et ça va communiquer avec les autres outils qui sont juste en dessous, qui sont ceux de l'administration, Télépac et Télécalam. Et donc l'agriculteur va pouvoir enregistrer toute la fertilisation. Ça peut aller même jusqu'au calcul de marge brute pour des productions végétales. Télépac et Télécalam, donc ça c'est depuis 2004, on a eu l'obligation donc de passer au numérique, donc on a abandonné le RPG.
Ah, en ce qui concerne le domaine de la communication, donc pour être rapide parce que sinon on va déborder, donc on va vous citer un certain nombre d'exemples. Évidemment, tout ce qui est site vitrine ou de site de vente en ligne qui se développe de plus en plus. Attention aussi à ce qu'on appelle la e-réputation, c'est-à-dire la possibilité pour une entreprise de pouvoir avoir la main sur ce qu'on dit de lui sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui se dit sur Internet. On a mis en place aussi pour pouvoir promouvoir des produits, le site Lozère Gourmande qui a été mis en ligne l'année dernière, et on réalise des annuaires, donc notamment l'annuaire des métiers d'art et l'annuaire des entreprises qu'on appelle vertueuses, c'est-à-dire celles qui ont mis l'accent sur le développement durable.
Donc on a également donc des sites de vente pour les produits, pour que les éleveurs ou les agriculteurs donc puissent vendre directement sans passer par des filières longues donc leurs produits. Donc je vous en ai noté deux. Sur l'environnement et le risque, on a la mise en place de capteurs tensiométriques. Donc, c'est des capteurs que l'on plonge dans le sol pour gérer l'irrigation, et donc ils vont définir le degré d'humidité du sol pour vraiment apporter la juste quantité d'eau nécessaire à la culture. Une cartographie interactive qui a été développée en Lozère et qui aujourd'hui est en train d'être mise en place à l'échelle nationale pour les dégâts de sangliers. Donc ça permet d'accélérer les procédures de dégâts et ça permet de déclarer aussi des sites d'agrainage illicites pour que les services de l'État puissent aller contrôler. Les sondes thermiques pour fourrage, ça c'est quelque chose de très important. Tous les ans, on a à peu près 2 à 3 bâtiments agricoles qui brûlent. Quand on presse le foin, il y a un échauffement. Et si ce n'est pas suffisamment sec, du coup, il va y avoir fermentation et les balles vont pouvoir prendre feu. Donc là, c'est un système de sonde qu'on plonge dans certaines balles, pas dans toutes, sinon ça serait trop coûteux. Et on va recevoir par SMS une notification de la température pour pouvoir aller sortir une balle qui risque de prendre feu. Et dans les outils d'aide à la décision et de conseil, donc là, ce sont des outils, par exemple, de simulation de pousse de l'herbe pour gérer le pâturage. Scan récolte l'herbe, c'est pour valoriser au mieux la qualité de l'herbe au moment de la récolte. Et puis la canne Bodymat, donc c'est un outil tout nouveau là, qui va arriver sur le marché. La Chambre de l'agriculture en a acheté un. C'est une canne avec une caméra 3D qui prend une photo de l'animal et qui va définir son état corporel. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des conseillers qui suivent des longues formations pour définir le niveau de gras de l'animal, est-ce qu'il est en bonne santé et comment il faut faire évoluer son alimentation. Mais là, aujourd'hui, c'est aidé par un logiciel qui le détermine.
On va conclure sans la diapo parce que comme ça, on restera dans les temps. Ah, okay. Donc, simplement, ce qu'on voulait dire en conclusion de ce propos introductif, c'est que les solutions qui sont proposées aujourd'hui aux entreprises, elles sont nombreuses. Après, il ne s'agit pas forcément de pouvoir proposer une solution globale et universelle. Forcément, il faut étudier ça au cas par cas. Et donc, pour ce faire, il faut faire appel en fait aux personnes qui pourront vous conseiller, aux personnes qu'on pourrait appeler les médiateurs du numérique, c'est-à-dire les gens qui sont là pour faire en sorte que vous puissiez prendre ce chemin. Alors dans la salle, il y en a qui ont déjà pris ce chemin-là, mais nous, on est au quotidien, on travaille au quotidien à l'accompagnement de ces entreprises. Et sur la couverture internet globale, effectivement, Monsieur Moulin en parlait dans ses propos introductifs. La Lozère va être équipée de la fibre optique à l'abonné pour tous les abonnés en 2022. Donc on n'aura plus la problématique des zones blanches en Lozère, on l'espère. Et donc à partir du moment où on a dit ça, forcément, on peut maintenant travailler à proposer des solutions, puisqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui nous disent « c'est bien beau tout ce que vous nous racontez là, mais moi, chez moi, je n'ai pas la possibilité de faire fonctionner correctement tout ce que vous nous avez apporté ». Voilà.
Merci beaucoup sur cet éclairage du coup sur la partie des productions, la supervision de la production numérique. Et maintenant, je vais essayer dans l'ordre d'appeler donc Sismic qui va nous parler des enjeux du numérique pour l'économie productive. Oui, je pense que voilà, je crois qu'ils ont pas mis le nombre de chaises, donc c'est très bien. Merci encore. Recall pour l'apport des équipements de sécurité connectés pour les chantiers. La Fabrique Image pour les drones dans l'agriculture et l'artisanat. Et 1000 cantines pour la numérique au service de l'anti-gaspi. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Non, c'est bon ? Oui, voilà. Et du coup, je ne l'ai pas sur le programme. Les Agripoles de Lozère. Et bien, voilà. Il vous restait une place. Merci à vous. Et je vous demandais de vous présenter déjà dans un premier temps. Et puis après, par étapes, on va développer tout ça.
Alors très bien, je me présente, Jean-Marc Lacombe, je suis président de Sismic, qui est une association qui se trouve en Aveyron et qui fédère avec environ une quarantaine d'entreprises qui sont des entreprises spécialisées du numérique, mais pas que, ils sont aussi des entreprises consommatrices du numérique. Nous nous rassemblons parce qu'effectivement, nous avons constaté que dans nos territoires, qui sont des territoires ruraux, nous souffrions de cette différence qu'il peut y avoir sur la dynamique que l'on rencontre dans les métropoles. Et malheureusement, nous regardons souvent passer le train. Et donc, en fait, est née en 2010 cette volonté de fédérer pour essayer de retrouver autour des valeurs du numérique une force pour pouvoir ne pas regarder passer le train. Voilà.
Bonjour à tous, je suis Anthony Drogueux, le fondateur et gérant de la société Recall, qui propose justement des services pour l'industrie connectée ou l'agriculture connectée. Et donc nous avons un bureau en Lozère, à Banassac, et un bureau également dans l'Hérault. Voilà, l'idée après c'est de vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne, puisque effectivement on propose énormément de services aux professionnels, l'idée étant de ne pas être débordé, de trouver quel est le bon service qui va nous être utile et pas proposer non plus un surplus d'informations auprès des consommateurs et professionnels.
Bonjour à tous, Frédéric Mirmand, donc ingénieur informatique pour les Agripoles de Lozère. Vous connaissez peut-être sous le nom administratif de l'EPLEFPA. Donc en fait, c'est l'enseignement agricole public en Lozère, constitué donc de 7 centres, 3 centres de formation initial, apprentissage et adulte, et 4 centres d'exploitation agricole. Donc la pisciculture à la Cano qui produit 20 tonnes par an, l'aquaponie, tout ce qui est donc culture des algues, la transformation des produits fermiers à Florac et les deux centres à Saint-Chély-Sivergol où on a donc le centre équestre et le tout nouveau bâtiment connecté centre d'exploitation laitier avec les boucles, les colliers et le bâtiment qui est aussi même connecté donc je représente ces structures.
Bonjour, alors moi c'est Alexandre Vieux, je suis auto-entrepreneur, j'ai créé la société La Fabrique à Images qui se situe au Malzieux. Donc c'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est captation audiovisuelle pour la promotion des mairies, des offices de tourisme. Je fais également de la captation d'événementiels, de concerts, Et je suis télépilote de drone depuis 2015. Donc Vincent m'a demandé de vous parler un peu des drones. Et dans l'agriculture et l'industrie, c'est pas forcément mon domaine de prédilection, mais bon, j'essaierai de vous faire un petit topo là-dessus. Et on parlera un petit peu du drone dans le tourisme et la mise en valeur du territoire aussi. Voilà.
Merci. Magali Gréto, et moi je représente la start-up Mille Cantines. Mille Cantines, c'est une application à destination de la restauration collective. Et nous, notre objectif, c'est de réduire le gaspillage alimentaire le plus en amont possible, puisque notre credo, c'est de dire que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc je vous expliquerai comment, avec le numérique, on arrive à travailler sur cette réduction du gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires, mais aussi les restaurants collectifs adultes.
Alors, justement, décidément, la technique n'est pas avec moi aujourd'hui. On a une petite vidéo qui va introduire. Et là, j'aurais bien aimé être accompagné. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? On va y arriver, hein.
Le numérique a quelques imperfections, mais souvent c'est lié quand même à l'homme, hein, je vous le dis. Hein.
Ah, mais je confirme totalement. Mais du coup, voilà, puisqu'on n'a pas fait en fait un partage d'écran, voilà, et à ce qui paraît, donc une petite vidéo qui va mieux expliquer tout ce que vous faites.
Aujourd'hui, nos cantines ne savent pas à quelle sauce leur stock va être mangé. Les chefs commandent, préparent, cuisinent. Mais si leurs clients déjeunent ailleurs, des dizaines de plateaux leur restent sur les bras et viennent grossir une pile de déchets de plus en plus contraignants à traiter. Difficile à digérer pour une collectivité. Découvrez enfin Mille Cantines. Véritable innovation numérique, ce service en ligne permet à vos usagers de connaître et commander leur menu la veille. Et ainsi, gérer votre stock en fonction des plats commandés. En collectant une base de données, Mille Cantines permet ainsi de suivre le baromètre de fréquentation pour moins gaspiller, de connaître la satisfaction des usagers grâce à la notation des plats, et de suivre les nouvelles habitudes des consommateurs, plats à emporter, circuits courts, pour générer d'autres profits et tourner à plein régime. Adieu les frustrations et les files d'attente. Ne gaspillez plus une seule seconde avec Mille Cantines. Contribuer à une meilleure gestion des restaurations collectives et aider le chef à mieux gérer ses stocks et moins gaspiller. En plus, ça ne mange pas de pain de bien manger. Grâce à l'optimisation de vos préparations et la réduction de vos dépenses, le coût du service Mille Cantines est directement déduit du ticket. De quoi fidéliser vos usagers. Avec Mille Cantines, on vous cuisine quelque chose de bon.
C'est bien, le numérique, quand ça fonctionne, hein, c'est super. Alors du coup, d'où vient cette idée?
On va arrêter. Hop, voilà, hop.
Voilà. D'où est venue cette idée de Mille Cantines?
Alors en fait, d'un constat qui est assez évident maintenant, je pense qu'on en parle suffisamment, c'est cette question du gaspillage alimentaire. On va parler de tout ce qui est optimisation grâce au numérique de la production. Cette production, l'objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'elle finisse dans l'assiette du consommateur, notamment quand on est sur de l'agroalimentaire. Sauf que dans le monde, on sait qu'un tiers de cette production, elle part directement à la poubelle. C'est-à-dire qu'on a pris du temps, on a élevé des bêtes, on a utilisé des ressources foncières ou autres pour qu'un tiers de celles-ci parte directement à la poubelle. Le gaspillage alimentaire, donc, c'est un tiers d'aliments qui est systématiquement gaspillé. En France, nous, on a souhaité travailler sur la restauration collective. Pourquoi? Parce que la restauration collective est également un secteur générateur de gaspillage. Sur 4 milliards de repas, c'est par an en France, c'est 17% qui part systématiquement à la poubelle. Vous imaginez évidemment les conséquences en termes économiques, bien sûr, mais aussi environnementales et puis éthiques, quand on sait dans le même temps qu'on a des gens qui sont en situation de précarité alimentaire. Donc nous, notre objectif, c'est ça. C'est de faire en sorte de réduire le gaspillage le plus en amont possible. Quand le gaspillage est produit, on a beaucoup de mesures qui sont mises en œuvre actuellement sur la revalorisation, le recyclage ou la redistribution. Mais hélas, c'est déjà trop tard, le gaspillage est fait. Donc nous, l'idée, c'est vraiment d'arriver le plus en amont possible. Et comment on va faire? Eh bien, pour aider l'équipe de cuisine, on va lui permettre d'ajuster sa production. Pourquoi? Parce que le gaspillage alimentaire, souvent, est lié au fait que l'équipe de cuisine n'a pas une bonne connaissance de son effectif. Et puis, quand elle propose du choix, elle ne sait pas vraiment précisément comment le convive va se porter sur ses choix. Et son métier, c'est quoi? Bah, c'est de servir les gens. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va avoir tendance à surproduire. Et le problème, c'est que quand il s'est trompé sur ses effectifs, eh bien, la surproduction, elle vient nourrir non pas les gens, mais la poubelle. Donc nous, on va proposer en fait un système via notre application, puisqu'il s'agit d'une application disponible sur smartphone, mais également sur notre site internet, et qui va permettre à l'usager de la restauration collective, eh bien, d'être acteur. Et comment il va être acteur? Eh bien, c'est simple. On va lui dire, mais regarde ton menu, indique que tu viens manger, et puis aller plus loin, pourquoi pas, commence déjà à te déterminer sur tes choix. Et cette information, elle va être collectée sur un ensemble de convives d'une restauration collective et directement reportée auprès de l'équipe de cuisine qui, du coup, aura une prédiction à la fois de son effectif et puis également, plat par plat, des quantités qu'il aura à préparer. Ça, c'est la partie vraiment en amont. Et puis, nous, ce qu'on veut faire, c'est aussi agir sur un autre versant du gaspillage alimentaire qui est celui du consommateur. C'est-à-dire qu'on a ajusté la production, on prépare les repas, on les sert et puis, bing, il y a quand même du déchet en fin de course. Et l'idée, c'est de savoir pourquoi il y a du déchet. Alors, on va travailler sur plusieurs sujets, toujours autour de l'application. C'est d'une part la valorisation du travail des équipes de cuisine, hein, parce que je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à couper court un peu aux préjugés qu'on peut avoir dans certaines restaurations où on imagine que c'est l'ouverture d'une boîte et on met ça directement dans les assiettes. Ben non, derrière, il y a des gens qui travaillent. Et puis, on travaille sur des bons produits, du produit local, du produit de qualité. Donc, nous, on va valoriser ce travail-là au travers un affichage qui sera donc personnalisé et enrichi d'informations, d'où vient le produit, par qui il a été préparé, comment il est préparé, quels sont les ingrédients, quels sont les produits certifiés qui ont été préparés, est-ce qu'on est sur une offre végétarienne, est-ce qu'il y a des allergènes. Donc on va travailler là-dessus. Et pourquoi? Parce qu'on considère, mais ce n'est pas que Mille Cantines qui le dit, qu'un produit qu'on connaît, c'est un produit qu'on respecte et c'est un produit qu'on gaspille moins. Donc ça, c'est vraiment pour nous important de valoriser ce travail-là. Et puis, on va également essayer de comprendre pour quelles raisons, finalement, le repas il n'est pas consommé en totalité. Et on va donc intégrer des mesures de satisfaction. En clair, on va demander aux convives de s'exprimer. Pourquoi, finalement, tu n'as pas fini ton assiette? Est-ce qu'il y en avait trop? Est-ce que le produit n'était pas bon? Est-ce que c'était la cuisson? Et donc ça, on l'intègre dans notre application puisqu'on va permettre aux convives bien de s'exprimer en notant son menu, en s'exprimant, en déposant des commentaires. Et puis ce qu'on va faire également, c'est qu'on va pousser l'information. Grâce à ces technologies, on a la possibilité de rentrer directement dans la poche des gens et de leur passer des informations. Et bien nous, on va utiliser ce système via des notifications pour travailler sur la valorisation. Et bien on va expliquer, par exemple, un événement particulier qui est fait par la restauration, une modification de menu. On va aussi expliquer qu'il y a, par exemple, un produit phare qui va être mis en œuvre. Et puis, si j'ai un peu de temps, vous me dites, je vous donnerai quelques exemples concrets.
Vous inquiétez pas, je vais vous couper la parole à un moment donné, mais je vous laisse finir le pitch parce que
voilà, donc
faut le tenir.
Ça, c'est la présentation globale de Mille Cantines. Concrètement, actuellement, on travaille avec à la fois de la restauration scolaire, hein, dans des collèges, dans des lycées, à partir de la rentrée prochaine. On commence sur de l'élémentaire, sur de la maternelle, on est très contents. On va faire évoluer du coup notre produit pour pouvoir répondre à ces attentes, notamment des cuisines centrales. On travaille aussi avec de la restauration adulte. Les premiers résultats sont très encourageants, notamment dans le scolaire, parce qu'on engage aussi toute une équipe éducative. L'idée, c'est que ce n'est pas un projet uniquement porté par des équipes de cuisine, mais il faut qu'il y ait un vrai projet d'établissement autour de ces sujets. Et sur un lycée, notamment agroalimentaire, parce qu'on travaille beaucoup avec des lycées agroalimentaires, parce que notamment dans les enseignements, eh bien, ce sujet de l'alimentation est important. On a en tout, sur 2 mois, moins 18% de pertes alimentaires en fin de plateau.
Moins de 18%.
Moins 18%.
Merci. Ça me fait l'excellente transition. Et comment on passe de l'assiette au troupeau, alors, sur le contrôle et la vérification, etc. Alors, comment ça se passe ?
Pour tout ce qui est contrôle alimentaire
En amont, du coup, puisque avant d'aller dans l'assiette, j'imagine que c'est produit.
Oui, oui. Au niveau production, moi, je ne suis pas trop féru de tout ça. Ce que je peux dire, nous, déjà, sur tout ce qui est traitement de déchets, depuis plus de 3 ans, on gère, donc juste, on a une cantine, on a des cantines. Et donc, on gère le tri sélectif, donc des déchets. Hein, on a 3 poubelles alimentaires, textiles, et j'ai oublié la troisième. Je crois qu'on a que 2. Ouais. Et après, donc, on fait la pesée et on retransforme, on revalorise ce déchet. Ensuite, au niveau production, donc, on essaye aussi, de, grâce à notre nouveau bâtiment là, qui est en service depuis moins d'1 an, on a une meilleure déjà production. On évite donc des déchets puisque on a un séchage en grange qui permet d'éviter justement un appauvrissement de l'aliment pour le bétail. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on gère aussi le déchet pour l'animal, parce qu'on a un DAC, un distributeur d'aliments concentrés, une sorte de robot en gros, qui va justement donner la quantité nécessaire à l'animal. Oui, un peu comme vous, pas trop manger, parce que, enfin voilà, éviter de gaspiller l'assiette, hein, mais c'est pas, d'en laisser dans l'assiette, mais c'est pareil pour les vaches. Donc, ce robot, hein, pour s'imaginer, donc est piloté grâce au collier, aux boucles, comme la chambre d'agriculture a cité précédemment, et grâce à tout ce qui est donc authentification, tout ce qui est donc capteur, on a vu justement à savoir quelle quantité, à programmer l'alimentation de l'animal pour qu'elle mange suffisamment, parce que peut-être qu'elle a un faible apport, ou elle a eu une suractivité, il lui en manque, ou on ne va pas trop lui en donner parce que justement elle a plutôt un rythme un peu plus léger. Voilà, ça c'est vraiment pour la gestion des déchets pour l'animal. Après, tout ce qui est annexe donc aux autres centres d'exploitation, je ne suis pas trop féru, je ne suis pas trop à la connaissance de ces gestions de déchets-là.
Mais du coup, ça fait partie des objets connectés qu'on met en place, parce que j'imagine que le robot, il est connecté.
Oui.
Et du coup, quels sont l'avantage d'avoir des objets connectés, justement, pour l'agriculture de demain et l'élevage des troupeaux?
Voilà. Alors, il y a une autre chose aussi, parce qu'on parle de déchets, ce n'est pas que les déchets alimentaires. Il y a aussi les déchets ou les économies électriques, donc énergétiques. C'est-à-dire que, en fait, il y a un système intéressant qui est assez, je pense, novateur dans le bâtiment qu'on nous a doté, que la région nous a doté. C'est l'échangeur de plaques. C'est-à-dire que l'animal, la vache, a besoin de boire, comme tout organisme. Si on ne boit pas au bout de 24 heures, on va avoir des gros problèmes. Et étant en Saint-Chély, bon, il fait froid, et donc l'eau peut geler. Et donc, on avait une consommation énergétique pour maintenir cette eau à température ambiante, à 10 degrés. Donc, pour faire des économies, pour éviter ce déchet énergétique, on recapitalise la chaleur du lait de la vache, qui sort entre 34 et 38 degrés, grâce à un échangeur de plaques qui nous permet de maintenir l'eau de l'abreuvoir à 10 degrés, sachant que nous, le lait de vache, on doit le conditionner à 4 degrés pour après le revendre. Donc on est obligé de le refroidir. Donc on recapitalise, on évite du déchet énergétique, en fait. On recapitalise donc la chaleur issue de l'animal pour le réinjecter dans son bien-être, qui est celui de l'abreuvoir, en fait. Donc on a aussi voilà, ces notions énergétiques, gestion du déchet énergétique qui est prise en compte et qui est possible justement grâce à des indicateurs, des capteurs, des objets connectés.
Okay. Voilà. Donc objets connectés sur la partie robot gestion alimentaire, du bâtiment. Il y a d'autres objets connectés dans l'agriculture que vous servez, qui sont conseillés. Comment ça se passe?
Alors, au niveau des objets connectés, le collier au sein de l'animal nous permet de savoir donc son activité. Le collier a plusieurs options. Nous, on n'en a pris qu'une, c'est celui du mouvement, du balancier en gros, et on peut déterminer son activité physique journalière. En plus de l'identification qui nous permet justement grâce à ça et grâce à un système, à un logiciel et le robot, on permet de savoir quelle est sa production journalière de l'animal. Et donc justement, si elle est en faible apport nutritif, il faut donc l'enrichir. Ces objets connectés, donc ce collier, on peut en plus y ajouter le GPS, la mastication. Tout cela, on ne l'a pas pris. Donc c'est une contrainte, mais qui va servir justement à être un levier pour la pédagogie, puisqu'on va montrer, on va développer nous-mêmes nos colliers lors des enseignements de GPS, et on va leur montrer que c'est possible, en partenariat avec le réseau de la Chambre d'agriculture. Donc ces objets connectés vont être de plus en plus omniprésents. Ils sont en train de se développer aussi en aquaponie, avec la gestion des algues, des eaux en bassin, pour justement ou en aquaculture, pour tout ce qui est le comptage des poissons, savoir s'ils sont adultes ou pas adultes en fonction des traitements d'image et des capteurs d'infrarouge, en fait.
D'accord, ok, merci. En parlant de capteurs et de visualisation digitale, comment maintenant l'observation humaine par le drone va compléter tout ça?
Alors, normalement, il y avait un
diaporama. Il y a un diaporama, mais... c'est bien celui-là?
Ouais. Donc, alors pour rester dans le domaine de l'agriculture avec les drones, on a
La première chose toute simple, c'est utiliser un drone pour des photos. Donc ça permet juste de cartographier des parcelles. Ça nous permet d'avoir une vision sur l'état général des cultures. Ouais, pardon.
Ouais.
De voir si, par exemple, des animaux n'ont pas dégradé des récoltes. Donc ça permet d'avoir une vision rapide d'une parcelle juste par photo. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des capteurs, différents types de capteurs, qui soient thermiques, infrarouges, à spectre multispectral, ce qu'on appelle. Et ça permet de donner plein d'informations sur ce que vous disiez, monsieur, sur l'état des cultures, les besoins en intrants, en irrigation. Donc ça permet de, comme vous disiez aussi, le drone va cartographier une parcelle, il va être capable de dire à tel endroit il y a des besoins en azote, et on peut le coupler à des machines, des pulvérisateurs, qui vont eux travailler avec les données GPS du drone et dire à tel endroit il y a besoin de plus d'azote, là-bas un peu moins, et de faire tout ça automatiquement. Donc ça fait gagner un temps fou. Ça permet, du coup, vous aviez vu les cartes d'avant, donc ça permet de, ouais, sur celle-ci, de voir à peu près les unités d'azote que vous avez par hectare, de voir les zones qui sont peut-être qui ont des soucis de fertilisation. Voilà. Donc après, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, donc analyser des besoins en engrais, optimiser l'apport d'intrants. Donc ça nous permet de faire des économies aussi sur...
Donc d'optimiser vraiment toute la partie production, quoi.
Ouais.
Ok. Détecter les maladies.
Alors ça, détecter les maladies, c'est... je crois que c'est des projets, je sais pas si ça se fait... ouais, bon. Traiter donc des petites ou grandes surfaces. Donc maintenant, vous voyez, on a des appareils qui permettent de transporter des pulvérisateurs. Donc ça permet aussi de protéger le sol, par le piétinement ou quand vous avez des machines agricoles qui tassent le sol. Là, le drone, il permet de faire ça à des vitesses énormes, en fait. On peut traiter des surfaces. Je sais plus, j'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est quelques minutes par hectare pour traiter des...
Oui, donc là, on fait de la frappe chirurgicale. D'accord.
Ben là, ça permet d'être très précis, très rapide. Mais c'est, oui, pour des petites parcelles. Alors aux États-Unis, en Californie, vous avez aussi les drones qui permettent de polliniser. Ouais. Alors c'est pas très joyeux, mais
l'abeille 3.0, c'est ça?
Voilà. Ouais. Parce que, en fait, je crois que la Californie, c'est le plus gros producteur d'amandes, et ils ont beaucoup d'abeilles qui ont disparu. Donc ils sont obligés, en période de pollinisation, de faire venir des abeilles par camion entier. À la fin de la saison, je crois qu'il y a plus de la moitié des abeilles qui ont disparu. Et donc, ils arrivent à polliniser avec des appareils comme ça, des surfaces très grandes, avec apparemment des meilleurs résultats que la pollinisation naturelle. C'est ce que j'ai lu.
Là, 60% sont agriculteurs.
D'accord. D'accord.
C'est
et on a... Oui, c'est très bien. Et aussi, on a une...
C'est le nouveau Roundup, non, c'est ça?
On a moins de... Quand on pollinise comme ça, avec les hélices, en fait, tous les produits se sont dirigés vers le bas. Il y a moins de dérives de particules qui partent dans l'air. Donc ça, voilà. Cartographie du champ, ça on l'a dit. Et voilà, image aérienne.
Après, alors du coup, c'est quoi? Industrie, artisanat, il y a d'autres aspects, c'est ça? Oui, bon, là on est parti de l'agriculture. Et là, on a...
Alors là, on est plus sur les industries, sur tout ce qui est caméras thermiques, donc qui vont permettre de déceler des différences de température pour faire des bilans thermiques de maisons. Par exemple, on le voit sur la photo du milieu, toutes les parties en rouge, c'est là où il y a des ponts thermiques, où il y a des pertes de chaleur. Donc on peut étudier aussi des panneaux photovoltaïques. Enfin, tout ça, ça permet en fait d'aller dans des endroits inaccessibles et d'éviter de mettre en œuvre des gros moyens avec des nacelles ou des hélicoptères ou des choses comme ça. Donc on peut intervenir très rapidement pour des bilans énergétiques ou de la surveillance de panneaux solaires, des bilans énergétiques de bâtiments, de la surveillance de pylônes. EDF, ils font beaucoup appel à des pilotes de drones, des télépilotes. Pour inspecter leur matériel. La SNCF aussi utilise beaucoup les drones pour l'inspection de voies, de rails. Après, ben voilà, tout ce qui est ouvrage d'art, ça permet d'aller inspecter au plus près et de faire avec des photos numériques haute définition, d'aller voir vraiment tous les détails de monuments ou des choses qui sont peut-être inaccessibles. Comme ça. Donc on gagne beaucoup de temps, en tout cas avec les drones. Après, vous avez dans le BTP, il y a des applications pour faire des suivis de chantier, des contrôles de conformité après la construction. Et ça permet aussi, après, aux clients, par exemple, de faire une vidéo de promotion de son bâtiment. Et après, vous avez tout ce qui est l'orthophotographie. Alors ça, c'est comme la photogrammétrie, en fait. Ça permet de prendre... Le drone va prendre plein de photos d'un terrain. Et on va recréer en 3D, on va modéliser en 3D le terrain qu'on a pris. Et en fait, ça va nous permettre d'aller prendre des mesures très détaillées avec ce fichier, enfin, au centimètre près, beaucoup plus précis qu'avec un satellite. Et donc, là, par exemple, vous avez une carrière qui a été modélisée. Et apparemment, ça leur permet de faire des calculs de volume, de pouvoir se projeter.
Sur l'extraction, des choses comme
voilà,
ça.
Voilà, sur l'extraction.
D'accord. Ouais. Ok. Ah bah, c'est formidable. Et alors, du coup, chez Recall, tous ces outils, on s'en sert. Comment sur les chantiers, on amène.
Alors, je vais rebondir rapidement. Effectivement, là, c'est un secteur que je connais très, très bien. Comme disait monsieur, effectivement, ça nous permet de donner des cubatures, des pourcentages de pente. De voir même les clôtures si elles sont en état, etc. Donc l'intérêt du drone, ça va vraiment de faire gagner du temps par rapport à un homme qui va faire des relevés et ça va prendre du temps. L'idée, c'est que on arrive quand même à y trouver des utilités pour ne pas supprimer des emplois, mais surtout gagner en sécurité sur des opérations qui habituellement peuvent être dangereuses. Je prends un exemple. Par exemple, on a conçu pour une société gardoise de la mesure en temps réel de radioactivité avec des balles caoutchouc qui sont jetées par drone pour éviter que l'homme aille s'exposer. Et on a la cartographie en temps réel, voilà, de la densité de la radioactivité, si je puis l'exprimer comme ça. Donc c'est voilà, c'est une application sur des zones dangereuses. De même, donc là on a travaillé pour une société. Par contre, on commercialise également nos propres produits pour les chantiers, par exemple, ou pour les carrières de matériaux, comme on vient de le voir, de manière à ce que effectivement tout le monde communique ensemble, que ce soit les machines entre elles, mais les machines également avec les personnes. Donc effectivement, vous êtes tous connectés avec votre téléphone, on peut tous savoir où vous êtes à tout moment. Mais l'idée, c'est vraiment de rendre service avec ça pour éviter, par exemple, un accident du travail, pour éviter que la machine aille écraser une personne ou que deux machines se tapent entre elles, puisque d'un point de vue assurance, les franchises sont extrêmement élevées, même si le plus important entre tout ça, c'est quand même que les clients privilégient le côté humain et veulent éviter la sinistralité humaine. Voilà. Pour vous informer un petit peu de tout ce qui peut exister, c'est-à-dire que sur un chantier, vous prenez, là vous êtes venu à Mende, voilà, il y a des travaux sur le tour de ville, il y a des réseaux qui sont dans le sol. Tout ça, les gens aujourd'hui ont des plans, mais on peut avoir les données numériques. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui permettent, pour ne pas se tromper sur les plans, on a la cartographie exacte lors de la découverte, et quand on y retourne plus tard, on sait exactement où sont les réseaux. Donc nous, par exemple, on peut proposer aux chauffeurs d'engin que vous avez vu tout à l'heure sur le tour de ville, d'avoir sur leur écran exactement l'endroit où se situe la conduite, qu'elle soit électrique, qu'elle soit du gaz, et c'est en ça que ça rend service. On évite l'erreur humaine, voilà, on aide à la prise de décision, on fait gagner du temps de cette manière-là. De même, donc là c'est un point de vue sécurité, sur des points de vue logistique, vous connaissez tous un petit peu tout ce qui est un peu tracking de camions, ça permet aussi, je citais un exemple là, hier sur une cimenterie, les gens peuvent éviter d'avoir des points d'attente. ils peuvent, parce qu'ils ne savent pas s'ils ont un collègue qui va arriver. Donc le fait d'avoir en vision le suivi de la logistique, on peut savoir si sur un endroit où d'habitude les gens ne peuvent pas se croiser, que là, il n'y aura personne en face et on peut emprunter la voie. Donc c'est en ça que c'est intéressant d'interconnecter les systèmes. On parlait tout à l'heure un petit peu dans le domaine agricole. Effectivement, les machines peuvent être autonomes, mais aussi, voilà, on reçoit des notifications sur son téléphone, c'est assez simple à faire. On peut très bien faire communiquer la brebis avec le tracteur. C'est pas un problème du tout. L'idée, c'est vraiment...
C'est juste un nouveau langage.
c'est que du 1 ou du 0, tout ça, finalement. Donc, la programmation, on peut faire en sorte d'interconnecter, mais de manière utile. C'est-à-dire que voilà, l'idée est... On a de l'information, mais on peut tous être submergés de l'information. Il faut bien la sélectionner. C'est un petit peu comme tous les magasins d'applications que vous avez en ligne. Il y en a des milliards d'applications. Il faut trouver la bonne qui correspond. Et l'idée, c'est aujourd'hui... voilà, vous avez dû... Il y a des tas de capteurs qui font des tas de choses. Aujourd'hui, on miniaturise tout ça de manière à avoir plutôt une plateforme, finalement, un matériel qui a de très nombreux capteurs à l'intérieur de manière à proposer tous les services. Et finalement, c'est le logiciel qui va dire lui, on l'utilise ou lui, on ne l'utilise pas.
Voilà. Donc, on va vraiment optimiser cette production numérique. Je vais juste en un mot, vous trois sur les territoires, vous êtes entreprise, start-up ou entreprise traditionnelle. Pourquoi le territoire et pourquoi voilà, cet écosystème-là?
Alors, je vais commencer chez le micro, mais pourquoi la...
En un mot, hein, j'ai dit. Hein.
Pourquoi la Lozère? Parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir faire rimer nouvelles technologies et territoire rural. C'est tout à fait possible. Ça ne pose aucun problème aujourd'hui, grâce déjà au déploiement de la fibre en Lozère. Mais voilà, on peut montrer que voilà, on peut être connecté et en plus... j'ai envie de dire socialement responsable d'un point de vue environnemental, parce que toutes ces données aussi, il ne faut pas oublier que ça consomme de l'énergie. Il faut montrer qu'on peut aussi être en nouvelle technologie, être respectueux de l'environnement.
En un mot du coup, parce qu'il a mangé tout le temps.
Je dirais qu'il y a tellement de choses à faire en Lozère dans ce domaine là enfin, moi je suis plus dans la com, dans montrer le territoire. Mais c'est en un mot, je sais pas, je suis amoureux de la Lozère et j'ai envie de la faire partager, de la montrer.
C'est déjà bien.
Non, peut-être rapidement, oui, pourquoi la Lozère? Parce que le numérique, c'est quand même, à mon avis, le moyen pour justement, c'était dit ce matin, en ouverture de cette journée, de reconnecter, d'attirer, de maintenir et d'envisager de nouveaux métiers aussi sur ces territoires-là. Donc c'est ça aussi, cette chance-là du numérique. Même si, encore une fois, le numérique, ce n'est qu'un support. L'innovation, c'est chacun d'entre nous qui l'apportons. C'est qu'un moyen, le numérique. Et il faut qu'on soit bien conscient de ça. Les changements et les innovations, c'est nous qui le portons. Et le numérique n'est là que pour nous faciliter les choses.
Et du coup, chez Sismic, alors, les enjeux de la production et de l'économie productive sur les territoires, comment on appréhende ça?
Alors, tout d'abord, je suis mais ravi de ce que vous venez de dire et ces deux belles conclusions. Enfin, toutes elles sont belles, mais surtout de dire je suis en Lozère parce que je suis amoureux de la Lozère. Waouh! Je pense que là, c'est déjà génial d'avoir dit ça. Alors, effectivement, Sismic, nous essayons justement de dire que... alors, nous partons sur le constat, qui est un constat, une réalité, c'est que l'innovation et le numérique sont au cœur d'une mutation économique sans précédent. On s'en rend pas trop compte parce que le temps passe comme ça, mais ça va tout compte fait très très vite. Le cloud en 2010, on faisait qu'en parler. On est 2019. La tablette, c'est 2010. Je me rappelle en 2012 parler moi à mon banquier en lui présentant je suis éditeur de logiciels, une solution sur une tablette, une solution pratique sur une tablette. Le banquier m'a regardé comme ça. J'ai dit vous verrez, vous aussi vous allez y aller. Ah, il dit c'est impossible. Nous, c'est impossible. Et aujourd'hui, ils ont toutes leurs applications sur des tablettes. Donc, effectivement, ça va très, très vite. Par contre, il faut être vigilant et prudent. Parce que tout le monde ne va pas à la même vitesse. Et vous avez raison, je crois que nous sommes des territoires, la Lozère, l'Aveyron, le Lot, le Tarn, nous nous ressemblons beaucoup hein, en termes de paysage agricole, en termes d'économie. Nous sommes tout compte fait des territoires extraordinaires parce que nous sommes des laboratoires pour justement faire émerger des projets de développement. Je vais vous donner quelques chiffres. En France, à l'heure actuelle, on estime qu'il y a à peu près un peu plus de 10 000 start-up. Il y a une croissance vertigineuse, plus de 30%. Malgré tout, la France n'est pas un pays extraordinaire pour le développement de ces start-up. Je vous donne d'autres chiffres. Il y a environ 300 licornes dans le monde. Ce qu'on appelle une licorne, c'est une société de type start-up qui est évaluée à plus d'un milliard de dollars. Puisque malheureusement, c'est encore le dollar qui est la référence. Sur ces 300, il n'y en a que 3 en France. Blablacar, Deezer, OVH. Le bilan n'est pas terrible. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai réveil. Si vous regardez le paysage, plus de 35% des start-up existent en région parisienne. Effectivement, il y a beaucoup de métropoles quand même en France. Une grande partie sont dans les métropoles. Or, ce n'est pas vrai. Si vous voulez être visible, si vous voulez être plus visible que dans les métropoles, c'est ici qu'il faut que ça se passe. Moi, je suis réjoui par un secteur d'activité. Sismic, on a travaillé pas mal de thèmes, la santé, la cyberdéfense et l'agriculture. Et nous avons fait un événement qui s'appelait l'agriculture connectée. Et j'ai été réjoui de voir le niveau culturel du monde agricole sur le numérique. Là, je dis bravo. Parce qu'on est passé effectivement d'un niveau où on accusait, moi je suis un fils d'agriculteur, donc je peux en parler librement, on nous prenait vraiment pour des ploucs. Il faut le dire, il faut utiliser les bons termes. Or, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie raison et que l'agriculteur s'intéressait à la chose, n'était pas du tout, avait la culture qui allait bien, était capable de dire ça, ça peut fonctionner, ça ne peut pas fonctionner. Et surtout, c'est un grand message d'espoir parce qu'on ne va plus continuer à faire du préventif comme on a fait, c'est-à-dire à passer des désherbants, des pesticides, etc., en préventif, puisqu'on ne faisait que du préventif. Alors on m'a expliqué, je suis fils d'agriculteur, mais moi il y avait 8 vaches et 10 hectares, donc il n'y avait pas de problème. Mais on m'a expliqué qu'il fallait au moins 7 à 8 passages pour un champ de blé, être certain d'avoir un certain rendement. Quand on sait l'empreinte carbone que donnent ces 7 à 8 passages, sans penser à ce qu'on détruit en dessous, c'est-à-dire qu'on réveille au-dessus, mais on détruit en dessous. Et on se dit que c'est le lendemain qu'on va. Enfin, le lendemain, c'est-à-dire c'est plus tard qu'on va voir les conséquences, c'est pas grave. Non, aujourd'hui, c'est très, très grave. Et donc, c'est très bien. Quand j'ai vu ce que vous aviez présenté, et il y a d'autres exemples, un qui est très rigolo, c'est Nayo, je ne sais pas si vous les avez peut-être identifiés, qui est un fabricant de robots Occitanie, où c'est un petit robot qui est solaire, qui est gros comme 2 poules ou 3 poules, et qui va dans le potager détecter les mauvaises herbes, et il a un trident, et il va piquer les mauvaises herbes et nettoyer le sol. Extraordinaire! On ne passe plus avec des gros engins qui tassent la terre. Ce sont que des petits engins. Quand vous voyez ici qu'on est capable d'aller faire du curatif au plus tôt, et c'est ça la vraie raison, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir, malgré tout, parce qu'il faut avoir une réalité économique. Je comprends, on ne peut pas fustiger les paysans en disant « mais débrouillez-vous, ne polluez pas et surtout nourrissez le monde ». Non, ça ne peut pas marcher. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'espoir au travers du numérique pour que demain, on arrête de brûler la terre. Je vous dis ça parce que, avec une certaine colère, je reviens de hier, j'étais dans une conférence avec un philosophe et scientifique extraordinaire qui s'appelle Carlos Moreno, qui nous a foutu la trouille, réellement, en expliquant que si on ne réagit pas, en 2080, c'est nos enfants, en 2080, on ne respire plus sur la Terre. On était sur une constante de moins de 200 ppm de CO2 jusqu'au début du 19e siècle, on est à 415, à 550, on ne respire plus.
Donc effectivement, le numérique est une source extraordinaire et on doit, nous, dans nos territoires, en prendre conscience, c'est une source extraordinaire pour arrêter de polluer sauvagement, pour devenir... Regardez l'exemple de Mille Cantines. Mais c'est extraordinaire d'arriver à avoir un rendement comme ça, de ne plus gaspiller uniquement parce qu'il y a un algorithme, et il faut l'accepter, un algorithme fait par des êtres humains. Ce n'est pas le robot qui prend la place de l'homme. C'est un algorithme qui va effectivement, c'est de l'intelligence augmentée qui va prendre le pas sur l'homme pour lui dire « arrête de gaspiller ridiculeusement ». Donc nous, Sismic, nous nous impliquons bien sûr sur ces territoires parce que nous pensons que c'est ici que ça doit se passer. Merci.
Merci. On a un tout petit peu débordé pour la suite. Ça parle cybersécurité d'ailleurs après, donc on est un peu wow, avec tout ça. Et merci beaucoup de votre intervention. C'était enrichissant et bravo à vous et bravo pour vos initiatives. Merci.